L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors nous allons, Maud, après quasiment trois émissions sur le combat spirituel et tout ce qu'il recouvre, nous allons aborder pendant ces deux émissions un thème qui pour nous est très important, c'est l'enfantement spirituel de nos enfants. Comment nous enfantons nos enfants à la vie divine? Comment nous les accompagnons vers le Christ? Voilà, c'est vraiment c'est un sujet très important parce que en tant que parent chrétien, Maud, notre première vocation, c'est pas d'abord de les emmener dans une bonne école, etc., d'être très sage, mais avant tout, c'est de connaître le Christ.
Voilà, donc on va faire comme à notre habitude, on va aller chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce qui concerne les enfants. Bon, il y avait beaucoup de textes, mais on en a retenu un pour aujourd'hui, qui est celui de qu'on appelle Jésus à 12 ans. Alors, que se passe-t-il? Jésus à 12 ans, en fait, c'est quand il avait 12 ans, effectivement, ses parents l'ont emmené à Jérusalem pour le grand pèlerinage annuel de la fête de la Pâque. Et ils sont partis avec les cousins, les amis et tous les habitants du village de Nazareth qui faisaient le déplacement. Et puis, retour de la fête, arrivé quasiment à Nazareth, Marie et Joseph se sont rendus compte que Jésus n'était pas dans la caravane. Et à ce moment-là, ils ont dû, ils étaient évidemment terriblement angoissés, ils ont dû retourner sur leurs pas pour chercher Jésus. Et finalement, ils l'ont trouvé en train de parler dans le temple, d'échanger sur la parole de Dieu avec les docteurs de la loi. Et à ce moment-là, Marie, saisie d'émotion.
Alors à sa vue, voilà, dit l'évangile, ils furent donc, Marie et Joseph, saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Et Jésus leur dit « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire.
Voilà, alors Alex, c'est comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de surprises et d'angoisses dans ce texte. C'est-à-dire que Marie et Joseph, ayant perdu leurs enfants, ils sont vraiment mal, quoi. Comme on dirait aujourd'hui, ils sont angoissés, ils savent pas où aller, ils paniquent. Et je crois que ça, c'est l'expérience de tous les parents.
Alors, moi, première chose à dire, c'est que, Marie, la mère du Sauveur, et Joseph, son père, je dirais terrestre, ont été angoissés, voilà. Ils ont été angoissés parce qu'ils n'ont pas retrouvé Jésus et en plus ils n'ont pas compris. Ils étaient angoissés. Hein. Marie, toute pure, sans péché, elle était angoissée et pendant trois jours elle était inquiète, voilà. Et ne comprenait pas pourquoi son fils, leur fils, avait fait ce choix. Et donc je crois que c'est important. D'abord, c'est de se dire que il est normal qu'en tant que parent, même parent chrétien, nous soyons profondément déconcertés et surpris par le chemin que nos enfants peuvent emprunter pour suivre leur propre voie et leur appel spécifique. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Si on veut pas être dérangé dans notre vie, surtout il faut pas être parent, parce que les enfants vont toujours nous mener sur des chemins qui n'ont pas été prévus au départ. Voilà. C'est la première des choses.
Voilà, les enfants nous déroutent, les enfants s'engagent sur des chemins qui sont pas les nôtres, les font à leur manière, pas quand nous on l'a décidé, et sans arrêt, ces changements, cette adaptation permanente nous oblige effectivement à faire un saut dans la confiance qui n'est vraiment pas facile à faire. Et on a beau se raisonner, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme ça devrait, pouf, il y a la poussée d'adrénaline et on est angoissé, on est inquiet, on se fait du souci. Le nombre de parents qui vous disent « je me fais du souci pour tel enfant, je m'inquiète pour tel autre », voilà.
Alors, soit à court terme, soit à long terme, on n'est pas con dans le monde dans lequel on vit, mon bon monsieur, ma bonne dame, etc., etc. Voilà, on est toujours, effectivement, l'inquiétude, un rien, même si on se dit, allez, je me raisonne, je fais confiance, etc. Voilà, un retard d'un quart d'heure et tout, on bascule dans l'inquiétude, voire l'angoisse, Voilà. Et
du coup, oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette angoisse et cette inquiétude fait que quand on se marie et Joseph arrive devant Jésus, ils lui font des reproches. Mais pourquoi nous as-tu fait cela? Donc c'est comme si c'était une méchanceté de la part de Jésus. Ils disent, nous as-tu fait cela? Comme s'il avait voulu vraiment leur faire de la peine. Et c'est un peu notre réaction de parents. À chaque fois qu'un enfant décide de faire quelque chose qu'on n'a pas prévu, on dit, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu choisis ce chemin? Mais c'est terrible. Et on entend même des gens dire, ah, il nous a fait une maladie. Comme si l'enfant l'avait déclenché pour leur faire de la peine. Il y a quelque chose d'un retour sur soi, bon, qui fait partie de notre responsabilité parentale, mais qui certainement est aussi un lieu de conversion.
Voilà. Alors c'est vrai que c'est là où on voit, mais là on se reconnaît vraiment, c'est pour ça que Marie et Joseph sont tellement humains, c'est que, bon, après l'expression auprès de Jésus, qui leur explique les choses, on va y revenir, Jésus après rejoint ses parents et les accompagne, et je dirais... leur fait confiance et comment dire, et réinstaurer une relation, je dirais, normale entre des parents et un enfant, puisque l'évangile même précise, il descendit alors avec eux, revint à Nazareth, et par la suite continua à leur obéir, et en tout il lui était soumis. Voilà, donc Jésus est revenu après dans ce qui doit être, bien sûr, la lignée et l'ordre des choses à un niveau familial et la relation parent-enfant. Mais ce texte, en fait, va souligner pour nous toute une série de points de conversion et des clés pour comprendre quelle est notre mission en tant que parents.
Voilà, je crois que c'est justement cet éclairage vient évangéliser notre relation à nos enfants. C'est-à-dire que si je veux vivre l'éducation de mes enfants, la croissance de mes enfants, de nos enfants, dans la justesse que me propose l'Évangile, alors il faut que j'avance sur cette question de l'inquiétude, de l'angoisse, du doute, de la culpabilité, et il faut que j'accepte de lâcher cette inquiétude et d'abandonner mon enfant, pas dans le sens de ne rien faire.
C'est pas l'indifférence. C'est pas l'indifférence.
L'abandonner dans la confiance en Dieu. C'est-à-dire que cet enfant, c'est d'abord un enfant de Dieu. Et ce n'est pas, même si c'est moi qui en ai la responsabilité, il ne m'appartient pas. Et je dois vivre ce combat incessant contre l'angoisse, parce que de toute façon, ça c'est une chose que toutes les mamans et tous les papas ont dû expérimenter, l'angoisse n'ajoute rien comme solution à la situation. Ça ne fait qu'empirer les choses. Ce n'est pas parce que je me fais du souci pour quelque chose que ça va s'améliorer. Ou bien au contraire, non seulement ça va me tendre et m'angoisser encore plus, et faire que quand la situation se dénouera, je mettrai 15 jours, une semaine à redigérer tout ça, alors que si j'arrive à le vivre dans l'abandon, c'est-à-dire que je fais confiance à Dieu, et je fais confiance à l'enfant.
Alors, dans cette question de la confiance, on peut associer une autre parole de Jésus dans une autre circonstance, toujours dans un cadre familial, mais là c'était pas dans une relation filiale, c'était, vous savez, la discussion entre Marthe et Marie qu'on a commenté il y a quelques semaines, en le rapportant à la vie conjugale, mais là on peut le rapporter par rapport justement à la vie filiale, à la vie d'éducation, nos liens avec nos enfants. Jésus interpelle Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. Voilà. Et après, il dira à Marie, tu as choisi la meilleure part, elle ne te sera pas enlevée. Et c'est vraiment important d'entendre cela. Nous avons à nous soucier de nos enfants, nous n'avons pas à nous inquiéter. La foi, si nous avons la foi, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons à rentrer dans la confiance, dans une dimension de foi, dans une confiance inébranlable en Dieu. Voilà. Faire tout comme disent les jésuites, faire tout comme si tout dépendait de nous, sachant que tout dépend de Dieu.
Voilà, c'est rentrer dans cet abandon qui consiste à laisser le Seigneur porter nos fardeaux. C'est-à-dire que sur la croix, le Christ a donné sa vie. Pour nous, il ne nous demande pas de rester écrasés par le fardeau de notre responsabilité parentale. Il faut que nous sachions lui donner ce fardeau, car son joug est léger. Son joug est léger, ça veut dire que nous acceptons de tout faire pour nos enfants, pour le mieux, mais tout en acceptant leur liberté et en faisant confiance qu'au travers de ça, l'enfant va grandir.
Alors, on peut aborder, Maud, un deuxième point de conversion que ce texte nous révèle, en tout cas pointe, hein, c'est que Jésus interpelle ses parents en disant « Mais ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père et du royaume ?» Et donc, finalement, nos enfants, par leurs actes, par ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, sont pour nous des chemins, des vrais chemins vers le royaume, des chemins que nous n'avions pas prévus. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus-Christ le dit à un autre moment, il le dit dans l'évangile de Marc au chapitre 10, en parlant des enfants, « Sachez que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important d'entendre, c'est que là où le Seigneur vient nous bousculer, là où Jésus a bousculé, de manière assez vive, hein, quand même, les parents en disparaissant, il aurait pu leur dire quand même qu'il allait rester, aller rester à Jérusalem. Et ben voilà, c'est ce chemin déconcertant par lequel nous passons tous en tant que parents. Eh ben, c'est un chemin de conversion pour nous. C'est un chemin vers le royaume. C'est eux qui nous montrent le royaume de Dieu. Voilà.
Voilà, surtout que nous savons que dans la perspective évangélique, nous, parents, sommes amenés à faire croître nos enfants jusqu'à leur autonomie et ensuite à les laisser partir dans la vie, à les lâcher, à couper le cordon, comme on dit. Si nous avons à faire ce chemin vis-à-vis de nos parents, nous devons aussi le faire vis-à-vis de nos enfants. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut leur laisser faire n'importe quoi, bien sûr que non, mais accepter d'être des tuteurs et de les laisser, parfois, pousser autrement que ce à quoi on s'attendait.
Voilà, nous allons continuer à nous faire interpeller par cette magnifique évangile de Jésus à 12 ans dans quelques instants. À tout de suite. Nous voilà à nouveau pour l'évangile, pour le couple, dans ce parcours autour de l'évangile de Jésus à 12 ans, quand ses parents l'ont retrouvé au temple, et on se laisse interpeller par cet épisode évangélique haut en couleur au niveau familial. Voilà, et nous disions, Maud, que voilà, c'est avec nos enfants. Et avec le Christ, c'est toujours un chemin surprenant, un chemin à la fois de conversion et à la fois un chemin vers le royaume.
Voilà, mais justement, comme on avait évoqué tout à l'heure, nos enfants sont d'abord des enfants de Dieu et nous devons laisser le Seigneur faire son œuvre aussi en eux. Et de ce point de vue-là, combien de parents on peut connaître dont les enfants ont été appelés à une vocation spécifique dans l'Église, de consacrés ou autres, ou de missionnaires, et qui ont été déroutés, agressés par ce choix. Or, nous sommes là pour laisser le Seigneur faire grandir dans le cœur de nos enfants et les appeler là où il le désire, lui et pas nous, parents. Donc, se dessaisir de ce projet qui est parfois tellement lourd à porter pour des enfants. C'est pas à des parents d'avoir un projet pour un enfant. Nous, notre projet, c'est de les faire grandir dans le Seigneur et devant Dieu, sachant que c'est au Seigneur de dire quel est le projet qu'il a sur nos enfants.
Sachant que la liberté aussi est laissée à nos enfants et combien on désire en cet instant souligner combien parfois est douloureux le ressenti de parents ou de grands-parents voyant leurs enfants ou leurs petits-enfants se détourner du Seigneur et même parfois avoir des vies déchirées. Voilà, c'est souvent douloureux et on entend nous avons rapporté à cette situation qui peut être parfois douloureux, très douloureux pour parents ou grands-parents, ce que Jésus dit à Pierre alors qu'il venait de lui confier son ministère. Et Jésus nous le dit aussi en tant que parents, quand nous sommes unis par le sacrement de mariage, dans ce ministère à la fois d'époux et à la fois de parents, Jésus vient aussi nous dire ce qu'il a dit à Pierre, donc « Un autre te mettra la ceinture et te conduira où tu ne voulais pas aller ».
Il faut se rappeler que ça évoque le martyr de Pierre.
Ça évoque le martyr de Pierre. Alors, on peut l'élargir très beaucoup, mais à toutes sortes de situations. Mais voilà, ça va, ça peut aller, ce type de parole, ça peut aller jusqu'au martyr, jusqu'à de grandes choses, jusqu'à la croix.
Voilà,
mais la croix mène toujours à la résurrection. Oui. Voilà, et puis c'est toujours cette profonde conviction que nos enfants sont profondément libres, parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont libres. Et donc ils ont droit, comme le jeune homme riche, d'accueillir la parole de Dieu ou de ne pas l'accueillir.
Donc, comme le jeune homme riche ou d'autres personnes de l'Évangile qui ont accueilli le Christ. Mais c'est vrai que nous sommes appelés aussi, en tant que parents, à les aider à discerner ce chemin, mais ce discernement laisse leur liberté pleine et entière. Et comme Marie, nous méditons tous ces événements dans notre cœur de parents, nous en parlons ensemble, nous le prions pour discerner qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste dans notre attitude. Et c'est aussi une des grâces, je dirais, qu'on peut ici partager, c'est vraiment la grâce de la louange pour nos enfants. C'est-à-dire prier ensemble en les bénissant. Ah oui, Seigneur, je te bénis pour cet enfant que tu m'as confié. Je te bénis pour, même si ce chemin qu'il prend, vraiment je le comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à entrer dedans. Mais voilà, je l'accueille et je te bénis pour lui parce que tu lui as donné la vie. Et c'est cette prière de bénédiction qui va porter du fruit d'abord dans mon cœur de mère, d'abord dans le cœur de père, puis qui portera du fruit de bénédiction pour notre enfant.
Alors ça, c'est un point très important, cette question de la prière, de prier pour nos enfants, de les bénir, de louer pour ce qu'ils sont. Mais aussi, comme tu l'as dit, Maude, et je me permets d'y revenir parce que je trouve que tu l'as passé un peu vite, parce que c'était peut-être naturel, mais je pense cette question, il est bien dit dans l'évangile de Jésus à 12 ans, à la fin, que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà. Donc ça veut bien dire que c'est pas simplement elle cadenassait l'événement, c'est qu'elle revenait dessus, elle le monduquait, comme on monduque la parole de Dieu. Elle revenait dessus, elle essayait de raisonner dans son cœur les événements. Et nous avons, nous, en tant que parents, mais c'est peut-être un charisme, Maude, plus particulièrement féminin, à justement laisser raisonner la parole d'un enfant, ce qui s'est passé, ce qui nous a surpris, pour essayer de discerner. Et c'est là que nous avons à entendre, dans se garder tout cela dans son cœur. Nous avons à entendre ce que Paul évoque dans l'épître aux Éphésiens. Dieu illuminera, excusez-moi, les yeux de votre cœur. Pourquoi ? Parce que à nous, parents, est donné le discernement. C'est notre charisme, c'est le don de l'Esprit, c'est le don du Seigneur qui nous est fait. Demandez la sagesse, elle vous sera donnée généreusement. Dit l'apôtre Jacques dans son épître. Donc c'est très important que cette écoute conduit, cette prière conduit à l'illumination et à la sagesse. Parce que nous avons besoin d'être des sages auprès de nos enfants, en tout cas essayer de l'être, Maude.
Voilà, mais pour pouvoir rentrer dans ce discernement, il nous faut aussi accepter de renoncer à nos propres projets. Sinon, notre discernement va être biaisé. On va vouloir que l'enfant, quelque part, nous fasse plaisir, comme si c'était un dû qu'il nous rende notre amour en étant obéissant. Et on veut absolument qu'un notre enfant, on voit qu'il serait un très bon médecin, on veut absolument qu'il fasse médecine. Et s'il part pour aller faire une déformation d'artisan du bois, on est très vexé parce que c'est pas valorisant pour nous. Mais on est à côté de la plaque. On est en train de chercher une reconnaissance de ce que nous avons comme projet au lieu de rentrer dans l'écoute de ce qu'il est. C'est bien parce que pour abandonner ce projet, il nous faut rentrer dans la louange de ce qui est cet enfant devant Dieu en dehors de notre volonté de parent, qu'alors on va pouvoir rentrer dans ce discernement dont tu parles et cette écoute profonde de la volonté de Dieu.
Et c'est ce dont nos enfants ont besoin. C'est d'avoir des parents qui vraiment vont les écouter, vont essayer de discerner, vont se faire bousculer par les événements, non pas un schéma dans la tête préétabli, comme tu l'as dit, Maude, vont se laisser interpeller. Mais c'est pas pour cela que nous avons à démissionner, et c'est pour cela que nous avons à vraiment laisser raisonner pour mener au discernement. Et c'est là où on en vient à un point vraiment important, du ministère de parents, c'est le ministère de l'autorité spirituelle. Nous sommes apôtres en tant que conjoint uni par le sacrement de mariage, en tant que membre président de l'Église domestique. Hein, c'est l'Église domestique a été remis au goût du jour théologique. C'est pas simplement une mode, mais c'est une réalité spirituelle parce que nous présidons notre Église domestique. Voilà que nous sommes apôtres de cette Église et ce que nous dit le Seigneur, voilà ce que tu prêcheras avec insistance et autorité, dit l'apôtre Paul. Voilà, quand il présente toute sa doctrine, il dit voilà, tu le prêcheras avec insistance et autorité. Donc nous avons dans ce ministère, cette autorité, par la prière, par l'intercession, par le discernement, par l'invocation de l'Esprit Saint, par l'éclairage donné avec la parole de Dieu, nous avons vraiment à exercer cette autorité auprès de nos enfants. Voilà. Et il faut croire, et ça je veux dire c'est peu souvent en mode souligné, que le Seigneur nous a donné autorité. Il nous a aux 12, il donna autorité sur les esprits impurs. Hein, voilà, c'est vraiment important. Jésus a donné autorité à ses apôtres. Voilà, une autorité spirituelle. Et nous, à notre niveau, dans notre domaine, nous avons autorité. Voilà.
Voilà, mais nous avons très très peu l'habitude de l'exercer, cette autorité, au sens spirituel du terme. C'est-à-dire qu'on nous apprend à l'exercer au niveau de l'éducation. Mais au niveau spirituel, c'est aussi important. C'est-à-dire que nous devons aussi, dans notre prière conjugale et dans notre prière familiale, exercer une autorité spirituelle. Voilà, au nom de notre sacrement de mariage, Seigneur, nous te demandons de libérer tel enfant de telle angoisse et de telle difficulté, parce que tu nous as demandé d'intercéder pour lui avec autorité. Et il ne faut pas croire que parce que les enfants sont enfants, ils sont exempts de tout combat. Eux aussi sont sollicités par les combats, par les tentations, par les difficultés dans leur propre vie, par des souffrances d'enfants qui sont parfois tragiques, des douleurs d'enfants. Mais c'est à nous, parents, de les aider à passer ces étapes en priant pour eux, en sollicitant l'autorité spirituelle que nous avons pour les aider à dépasser ces moments-là.
Mais alors, attends, Maud, moi j'en vois plusieurs qui sont en train de dire, attends, Alex et Maud, là, vous êtes en train de péter un boulard, parce que nous, on est absolument, vous peut-être, mais nous, on est absolument pas capables de ceci et de cela, mais on est tous dans la même galère. On est tous des tocards à un niveau spirituel. Et c'est pour ça que le Christ nous dit, demandez et il vous sera donné. Demandez et vous recevrez. Hein, on vous renvoie à l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Aucun de nous n'est pro. On n'a pas fait 7 ans de séminaire ou 10 ans de noviciat pour recevoir tout ça. Nous avons, le Seigneur vient nous enseigner au jour le jour, au travers de certains écrits, au travers de d'enseignements, etc., d'interpellations. Demandez et vous recevrez. Priez le Père qui est dans le secret. Et voilà. Tout cela, c'est pourquoi? Tout cela, c'est pour conduire nos enfants vers l'essentiel. Nous sommes d'abord missionnés pour cela. Nous sommes missionnés pour accompagner nos enfants, pour rencontrer Jésus vivant. Tout le reste, c'est de l'intendance. Tout le reste, c'est secondaire. Nous avons à conduire nos enfants, et c'est le commandement de Christ à notre égard, de les conduire à la rencontre de Christ qui va transformer. C'est le plus grand trésor, c'est le plus grand capital, c'est le plus grand héritage que nous pouvons leur léguer. C'est cela, la rencontre du Christ.
Voilà, si nos enfants rencontrent le Christ vivant comme étant le sauveur de leur vie, alors, si je puis dire quelque part, nous avons fait notre boulot. Et derrière, évidemment, toute leur vie se mettra en ordre. Et nous n'annonçons pas une morale, nous annonçons un Christ sauveur qui va, dans leur vie, permettre que tout se mette en ordre selon la volonté du Père.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On a été heureux de partager cette si bel évangile pendant cette demi-heure. Et donc que le Seigneur vienne vous bénir, et bénir particulièrement vos enfants, aussi les petits-enfants, et puis pour certains, ce sont aussi les arrières. Voilà, qu'ils rencontrent le Christ vivant, transformant. Il n'y a pas plus grande joie dans la vie d'un homme et d'une femme que de connaître Jésus. À la semaine prochaine, où nous aborderons l'évangile du Talitha Koum. À la semaine prochaine. Encore.